France Culture.
Le général Jorge Videla, un nom qui fait encore frémir le peuple argentin. À la tête d'une junte, après le coup d'État de 1976, il fait entrer l'Argentine dans l'ère de la terreur qui mêle répression, persécution et disparition. Une implacable dictature qui écrase tout opposant, famille comprise.
Bonjour le Book Club, bonjour Leïla Guerriero. J'ai lu votre livre. Ce qui m'a impressionné, c'est à quel point il est riche de plusieurs voix, de plusieurs regards, et que c'est de l'ensemble de ces regards que naît le portrait de Silvia Labero.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'appel « Histoire d'une femme argentine », c'est le titre français du livre que Leïla Guerriero fait d'abord paraître en Argentine, puis en Espagne. Il y connaît un immense succès. Après de longs mois d'entretien menés avec une rescapée de la torture effectuée sur ordre de la dictature argentine, cette grande figure du journalisme narratif écrit une fresque qui va de l'horreur absolue vécue dans l'un des pires centres de détention clandestins après le coup d'État de 1976, à la survie, la méfiance, l'amitié, le corps, la beauté, l'amour. Le portrait qu'elle dresse de Silvia Labero, cette jeune militante monténéra, enlevée, torturée, violée, que l'on fait accoucher sur une table et suspecte après sa libération, ce portrait, qui remonte à l'enfance et la brosse en femme à la fois libre et hantée, est difficile à oublier. Leïla Guerriero est de passage en France à l'occasion de la traduction de son livre. Elle est notre invitée. En fin d'émission, on cherchera la musique, comme on cherche parfois la lumière. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Leïla Guerriero.
Hola Marie. Gracias por estar, por invitarme.
Merci beaucoup d'être là. L'appel Histoire d'une femme argentine apparu donc dans cette traduction française par Mayra Mouchnik de l'espagnol Argentine, donc aux éditions Rivage. C'était à la rentrée littéraire. Il reçoit aussi en France un très bon accueil critique évidemment. Il y a même des personnes qui l'attendaient à ce même micro il y a quelque temps. La grande autrice Neige Sino disait que ça avait été pour elle une très 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 importante lecture. On va en parler avec vous aujourd'hui et avec Pascal Fougère qui vous interprète en direct. Merci beaucoup Pascal d'être avec nous. Ici, on fait le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices ou des lecteurs. On essaye de faire connaissance avec elles et avec eux en leur demandant quel livre ils ont trouvé sur leur passage, sur leur chemin. Il se trouve que vous mentionnez aussi dans ce grand portrait que vous faites de Silvia Labero, dont on parlera dans un instant, vous mentionnez aussi la place de la lecture, la place de sa formation intellectuelle, de sa formation politique. Vous terminez même par l'évocation émouvante d'un petit cahier sur lequel elle a recopié pendant la détention et pendant le temps de la torture quelques poèmes, on y viendra. Mais pour ce qui est de vous et de votre pratique de la lecture, Leïla Guerriero, vous diriez que ça commence comment? Est-ce que vous grandissez dans un endroit où il y a des livres, où les livres sont importants, valorisés?
Je crois qu'en fait, j'ai appris à lire même avant d'apprendre à lire parce que j'étais toute petite, en fait, et il y avait une bibliothèque incroyable chez une amie. Il y avait de la poésie du siècle d'or jusqu'à des best-sellers d'un auteur qui s'appelle Will Smith, qui n'était pas bon du tout. Hein. Tous les livres des auteurs du boom latino-américain, Rimbaud, Edgar Allan Poe. Et mon père, en fait, prenait en fait à cette bibliothèque en fait des livres qu'il jugeait correct pour une petite fille de 5 à 7 ans et il ne lisait pas les livres, il me racontait en fait les récits de ses livres et je me souviens que quand j'étais petite, il y avait deux auteurs qui me plaisaient beaucoup, l'un d'entre eux était Ray Bradbury et j'ai eu vraiment très peur avec un livre qui s'appelle Le Pays d'Octobre et c'est aussi un auteur uruguayen qui me plaisait beaucoup Horacio Quiroga. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui a écrit sur le littoral, beaucoup d'histoires de pêcheurs qui toujours terminaient en étant morts. Mais à l'adolescence, en fait, je me suis indépendisée de cette bibliothèque et j'ai commencé à lire des classiques de diverses langues, beaucoup de littérature française, les Grecs, les Russes, certains Italiens aussi. Et à partir de 20, 23 ans. J'ai eu une rencontre du premier type, pas du troisième, avec la littérature contemporaine, à partir d'un auteur qui m'a ouvert les portes de cette littérature. Et c'est un auteur pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, hein, John Irving. Et après, j'ai lu des choses beaucoup plus compliquées, en fait. Hein, David Foster, Wallace, Laurie Moore. Puis j'ai lu ensuite les grands classiques américains comme Truman Capote. Ce que aujourd'hui je lis le plus, c'est la littérature contemporaine, Jonathan Franzen, Jonathan Ferris, enfin voilà, des auteurs très divers. Mais la bibliothèque de ma maison était une bibliothèque très importante, puisqu'elle c'était une bibliothèque totalement sans préjugés. Et je dirais qu'en fait, cette bibliothèque m'a appris, et surtout mon père d'ailleurs m'a appris, quelle est l'idée de la lecture, en fait. Hein, quelque chose qui vous sépare du monde. S'immerger dans un monde, c'est ce que permet le livre. Et quand on a cette expérience dès qu'on est toute petite, hein, je crois que c'est une addiction à laquelle on reste pris, avec laquelle on reste pris, heureusement.
Il y a une partie dans le livre que nous allons évoquer que vous consacrez à l'enfance de Sylvia Labeyrou. Vous ne restez pas, Leïla Guerriero, uniquement centrée sur sa détention, sur le moment de la torture qui a duré un certain temps, on en parlera tout à l'heure. Mais vous vous demandez aussi quelle petite fille elle a été, quelle adolescente elle a été, quelle formation politique, intellectuelle, amoureuse, sexuelle elle a fabriqué pour elle ou les autres ont fabriqué pour elle. Quelle place a tenu la lecture dans la formation de cette femme-là?
Bueno, creo que no fue tan relevante cuando era pequeña.
Alors, je ne crois pas que la lecture ait été si importante que ça quand elle était petite. La lecture est devenue très importante à partir du secondaire, hein, puisque elle a suivi ses études dans un établissement très prestigieux, hein, dont le diminutif était le collège, comme s'il n'y en n'avait pas d'autres. Et donc, ses parents... alors, son entourage, en fait, était très lié à la lecture, parce que le deuxième mari de sa mère... Et donc là, elle a eu un goût pour la littérature européenne et aussi d'Europe centrale, mais elle n'a pas... était une lectrice, hein, comme on le dit en Espagne en parlant de rat de bibliothèque. Ça a toujours été une personne très vivante, intéressée par ses rapports avec des amis de tous les sexes, hein, c'est un trait fondamental de sa personnalité, mais effectivement, aujourd'hui, c'est une grande lectrice, hein, même... C'est pas une grande lectrice, même si elle a grandi dans une famille où il y avait une bibliothèque gigantesque, en fait. Hein, ses parents étaient plutôt très intéressés par eux-mêmes, en fait.
Est-ce qu'il y a des livres qui ont été importants pour vous, Leïla Guerriero, au moment d'écrire ce livre, dont on parlera tout à l'heure de la nourriture primordiale qui ont été ces entretiens avec Sylvia Labeyrou, mais aussi avec son entourage. Mais est-ce qu'il y a des livres qui vous ont aidé à structurer ce texte-là, qui vous ont donné des pistes pour son écriture? Est-ce qu'il y avait des livres près de vous lorsque vous travaillez?
Alors,
évidemment, pour écrire ce livre, j'ai lu beaucoup de livres qui parlaient de ce mouvement politique, les Montoneros, et puis beaucoup de livres sur la lutte armée, beaucoup de livres sur la dictature militaire argentine, celle de 76 et de 83. Mais je ne parlerai pas vraiment de livres de référence qui puissent être un modèle pour l'écriture de l'appel. Je ne dirais pas, bien sûr, que c'est un livre unique, totalement singulier, et que personne n'a jamais rien fait dans le même style, mais je savais que c'était un livre différent, car ce n'était pas un livre qui allait dire ce que l'on pouvait attendre sur la dictature. Et pendant trois mois et demi, j'ai rencontré Sylvia, et il y a eu trois mois et demi où j'ai juste lu en fait de la documentation au début, et c'est un moment où j'écrivais de 5h du matin à 9h du soir, seulement interrompu par une heure de course, et peut-être que le soir je regardais un film et je regardais un épisode de série. En général, quand j'écris des livres, j'essaye de ne rien lire qui puisse avoir une relation avec ce que je suis en train de lire, à part, bien sûr, si ce sont des films, des livres que je dois lire pour la documentation. Quand j'ai écrit mon premier livre, Les Suicidés de la fin du monde, qui était l'histoire de 12 jeunes qui s'étaient suicidés en Patagonie, je me souviens qu'à l'époque, je lisais un livre de John Irving qui s'appelle Le monde selon Garp, qui n'a rien à voir avec le suicide. Donc, j'essaye en fait que ce que je suis en train d'écrire n'ait rien à voir avec ce que je suis en train de lire.
Vous êtes présentée, Leyla Guerriero, comme vraiment une pionnière, une figure majeure du journalisme narratif dans votre pays et dans le monde. Est-ce que c'est un style littéraire qui vous intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose que vous lisez en particulier ? Et qu'est-ce que vous aimez dans ce qu'on appelle aujourd'hui la non-fiction ou le journalisme narratif ?
Si, bueno, lo de... quizás pionera lo pondría entre comillas porque
pionnière, je mettrais ça entre guillemets puisque il s'agit d'une tradition qui est longue et ancienne que je suis, et c'est ces gens-là, ils ont ouvert le chemin, c'était eux les pionniers, et on a effectivement en Amérique latine une grande tradition. On pourrait citer Rudolfo Walsh comme un des pionniers, et à partir de lui, on a cette grande tradition. On a Martin Caparrós, qui est actuellement en vie en Espagne, mais qui est vit en Espagne. On a Alma Prieto, et d'autres auteurs aussi. Et donc, oui, je lis beaucoup de journalisme. Prieto, Villoro, Caparro, c'est des gens que je lis. Mais il y a aussi des auteurs de la nouvelle génération. Un grand auteur, Oscar Martinez, qui est salvadorien et qui parle de la violence dans son pays. Il est actuellement en exil. L'Espagnol Arturo Lescano, la péruvienne Gabriela Wiener, José Finalicitra, Daniel Zitingeres, le péruvien. Il y a vraiment en fait une tradition importante, ancienne, et qui est très vivante encore. Et comme je vous le disais auparavant, j'aime beaucoup la littérature contemporaine nord-américaine. Je lis beaucoup des auteurs qui ont aussi, en fait, ces Américains qui suivent cette tradition, comme John Didion, Jonas Malcolm, les chroniques de non-fiction de David Foster Wallace, qui, s'il ne s'était pas suicidé en 2008, nous aurait tous laissés au chômage, parce que c'est quelqu'un d'absolument fabuleux. Oui, effectivement, je lis beaucoup de journalisme narratif, pas seulement parce que c'est un genre qui me plaît, mais aussi parce que je crois que quand on fait profession d'écrire, on a comme devoir de lire les contemporains et voir en fait ce qu'ils écrivent et effectivement les célébrer aussi.
Pourquoi est-ce que c'est un outil si particulier et peut-être choisi de manière de plus en plus massive, cet outil de à la fois s'approcher du réel, le traiter avec du document, travailler des entretiens, travailler des archives, travailler voilà, avec des essais par exemple historiques avec soi et en même temps solliciter tous les outils de la narration, quasiment des outils de personnages, d'écriture de fiction pour rendre compte du réel. Pourquoi est-ce que c'est si pertinent? Pourquoi est-ce que c'est si efficace? Et pourquoi est-ce que ça a tant votre goût, Leila Guerriero?
Alors, quand j'étais petite, j'écrivais de la fiction, des nouvelles. J'ai aussi essayé d'écrire un roman. Je crois qu'en fait, on écrit tous, en fait, ce qu'on aime lire. On commence toujours par écrire de la fiction. Je ne connais pas un enfant, en fait, qui aime écrire et qui n'a pas écrit, en fait, un portrait de sa grand-mère ou quelque chose sur les chiens errants du quartier. Mais quand je suis rentrée en journalisme dans les années 90, j'ai compris très rapidement qu'il y avait dans cette profession-là quelque chose qui était très exaltant pour moi, c'est-à-dire me permettre de répondre à ma curiosité et me permettre effectivement d'aborder des sujets avec l'excuse du journalisme, entrer dans des prisons, entrer dans un couvent de religieuses cloîtrées. Et j'ai rencontré des écrivains, rencontré aussi des écrivains qu'on admirait. La réalité, pour moi, c'est quelque chose de très sexy. Hein. Et il me semble qu'on puisse avoir l'avantage d'un thème imposé fait que voilà, c'est mon cas, j'ai pas d'imagination pour écrire, donc pour moi c'est un avantage d'avoir un thème imposé. Je ne pourrais pas en fait transformer une véritable histoire vraie mêlée à de la fiction, et donc je pense que ce journalisme narratif permet d'unir les deux choses, c'est-à-dire un sujet très fort, très particulier, avoir le souhait de partager ceci avec un grand nombre de lecteurs parce qu'on juge ça intéressant. Et voilà, souvent ça permet de révéler des choses aussi, mais ça permet aussi de mettre en travail toute la sensualité de l'écriture à travers le langage, tout ce travail de mélanger les chronologies, de jouer avec des structures et travailler aussi le suspense, hein, tout ça appliqué à des faits réels. Et pour moi, c'est effectivement très excitant. Et évidemment, ce qui est sous tout ceci, hein, ce qui est sous-jacent, c'est cette pulsion de l'écriture qui m'habite, bien sûr, mais j'ai aussi cette curiosité qui est toujours vivante, volcanique, tout m'intéresse. Hein. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie d'écrire, mais tout m'intéresse en fait. Je suis le genre de personne qui, si elle voit en fait un couple qui se dispute dans la rue, va essayer de trouver n'importe quelle excuse pour rester proche et comprendre. Hein. Et donc, dans mon hôtel, il y avait en fait des gens qui étaient au coin de la rue. Qui se tenait en fait embrassée. Elle, on la sentait réticente, il y avait des caresses et on ne savait pas si les mains étaient d'amour, de consolation. Je les ai vues 10 minutes en fait. Et ils se sont séparés et chacun, à ce moment-là, au moment où ils sont éloignés, regardait son téléphone. J'aurais j'aimerais adorer traverser la rue et leur dire « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous vous quittez pour toujours? Est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que vous avez pleuré ?» Et c'est le genre de choses qui m'arrivent tout le temps.
On va parler de votre livre juste après, une comptine. Le blog Histégéobox nous en raconte l'histoire comme ça. Depuis 1977, les mères des victimes d'enlèvement organisent des rondes sur la place de Mai à Buenos Aires, face au palais présidentiel, pour conserver intact le souvenir et la mémoire des disparus. C'est une comptine de Maria Elena Walsh, écrite dans les années 60, donc bien avant la dictature militaire, qui est censurée par les militaires et qu'elle chante. Elle chante cette comptine. À l'époque donc censurée, cette comptine s'appelle « El país de no me acuerdo », le pays de « je ne m'en souviens pas », pour symboliser le danger des politiques de l'oubli. Voilà ce que dit cette comptine, dans une traduction vers le français. « Au pays de « je ne me souviens pas », je fais trois petits pas et je me perds. Un petit pas par ici, je ne sais plus si je l'ai fait. Un petit pas par là, j'ai horreur de tout cela. Un petit pas vers l'arrière et je ne fais plus rien, parce que j'ai déjà oublié où j'avais mis mon autre pied. »
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comment choisissez-vous vos histoires? Peut-être pour des raisons remontant à deux décennies et qui flottent encore dans le vent. Peut-être le pire qui soit. Un abscon et vaniteux besoin de se compliquer la vie et à la fin, gagner ou pas. Peut-être aussi parce qu'il est des histoires qui ne finissent pas. Voilà comment vous répondez, Leïla Guerriero, lorsqu'on vous questionne sur votre désir de raconter telle ou telle histoire. En l'occurrence, cette fois, le portrait complet et complexe d'une femme qui avait 20 ans en 1976 lors du coup d'État en Argentine, qui fut arrêtée avec d'autres jeunes militants, séquestrée, violée, donnant vie à une petite fille sur une table, vraisemblablement sauvée par un coup de téléphone, horreur de l'arbitraire, s'ajoutant à l'horreur de ces centres que l'on nommait de rééducation pour rajouter dans le langage de la perversité. C'est vrai. Pourquoi raconter cette histoire-là aujourd'hui et surtout, comment le faire? On en parle avec vous. Vous êtes de passage en France à l'occasion de la publication dans la traduction française de « L'appel ». Histoire d'une femme argentine, traduit de l'espagnol argentine par Mayra Mouchnik pour les éditions Rivage. Et vous êtes interprétée en direct par Pascal Fougère. Vous devez répondre à plusieurs personnes, Leïla Guerriero, dans le parcours que vous racontez dans ce livre, à cette question. Pourquoi tu te lances dans cette histoire? Votre père vous dit même, mais qui a encore envie d'entendre parler de ça? Pourquoi est-ce que tu es en train d'écrire ces histoires-là? Comment est-ce que vous vous débrouillez avec cette question essentielle dans le journalisme narratif? Votre engagement personnel, cette fameuse pulsion d'écrire cette histoire et pas une autre.
Je crois qu'effectivement, le cas de Silvia Lavairo est celui d'une survivante très particulière, toutes les personnes qui sont interviewées dans le livre hein, ont des histoires très particulières. La majeure partie sont des histoires tristes, des histoires très dures. Mais le cas de Silvia Lavallero est très particulier parce que pour moi, la dictature argentine a commencé quand j'étais enfant. Hein, j'ai fait toute mon école secondaire sous la dictature et donc je dirais que c'est la bande sonore de mes dernières années d'enfance et de mon adolescence, une bande son triste, même si personne dans ma famille n'a couru un risque direct, mais évidemment ma famille était contre la dictature et c'est des gens qui prenaient des précautions et qui bien sûr ressentaient cette peur qui était partout comme une espèce de brume un peu grise. Et je pense qu'il y avait une pulsion chez moi et un intérêt pour ces histoires-là, d'une part, parce que c'est le cadre dans lequel s'est déroulée une partie très importante de ma vie, mes années de formation. Et pourquoi Silvia ? Parce que ce n'était pas n'importe quelle survivante. Elle avait une histoire très particulière. Bon, bien sûr, personne n'est pas particulier, mais vraiment, en fait, hein, le cas de Silvia, c'était comme la lèpre de tout ce qui avait concentré tout ce que la dictature avait fait supporter aux gens. Elle avait été emprisonnée en étant enceinte, elle avait été torturée enceinte, elle avait accouché en captivité, on lui a enlevé sa fille après une semaine et la petite fille a été confiée à ses grands-parents et sa fille a été la première fille qui est née donc dans ce centre de torture clandestin qui était à l'école supérieure de la marine, l'ESMA. Elle avait effectivement dans sa famille beaucoup de militaires, elle était extrêmement belle hein, et elle a payé très cher cette beauté. Et puis il y avait aussi bien sûr elle a été violée pendant très longtemps à l'intérieur et puis finalement 40 années après ça a été l'une des trois personnes seulement qui ont déposé plainte contre leur violeur et jusqu'à aujourd'hui, c'est très difficile pour une femme de porter plainte contre un viol, hein, parce que d'une certaine manière, le viol, la femme est la première soupçonnée. Imaginez à quel point ça a pu être difficile, en fait, de revenir 40 ans en arrière sur ce viol subi dans des circonstances particulières. Et plus encore pour une femme qui avait été accusée, soupçonnée d'avoir fait un certain nombre de choses pour obtenir sa liberté. Donc il y avait vraiment beaucoup de singularités et effectivement Silvia était obligée de participer à l'un des faits les plus obscurs de la dictature, hein, c'est-à-dire l'infiltration par Alfredo Ortiz, qui s'appelait l'ange de la mort ou l'ange blond, hein, qui a infiltré en fait ce groupe des maires de la place de Mai, qui a abouti donc à la mort de deux maires et à la disparition de deux religieuses. Et Silvia, elle a été obligée de participer à cet acte-là. Donc, il y a eu effectivement une accusation de collaboration, alors qu'en fait, fait, elle a été vraiment obligée et ça a pourri des décennies de sa vie. Et elle m'a raconté en fait comment en fait la dictature n'avait pas en fait seulement gâché la vie de dizaines de gens, mais comment les traces même de la dictature avaient continué à le faire pour des dizaines de gens.
D'ailleurs, on en parlera, Leïla Guerriero, mais il y a une place très importante que vous consacrez à la maternité, au sort de cette petite fille qui est née à 10 mois de grossesse dans des conditions atroces, dans ce centre de torture, mais aussi 18 ans après la naissance de cette petite Vera, de la naissance du deuxième enfant de Sylvia qui s'appelle David, et vous sondez, il semble, l'espèce de maternité impossible, les traces laissées par la violence subie par cette femme sur les générations d'après, notamment sur ses deux enfants. Vous l'avez dit rapidement, ce livre, il procède, il est le résultat des 3 mois passés et conversations quasiment ininterrompues que vous avez avec cette femme-là après avoir découvert son existence et son histoire dans un article de journal. Je voudrais qu'on écoute la voix de la romancière russe Svetlana Alexievitch dans une archive de 2014 parler de la position d'abord avant celle d'être romancière, d'être celle qui écoute.
Я лет 35 пишу и написала только 5 книг. В общем-то, я подолгу пишу свои книги. И найти героя в нашей жизни, ну, это не так сложно. Каждый человек, с каждым человеком можно говорить. Другое дело, что я говорю, надо найти потрясенного человека.
Ça fait 35 ans que j'écris et je n'ai fait que 5 livres. Je mets longtemps à écrire mes livres. Trouver des personnages en notre vie, ce n'est pas si compliqué. On peut parler avec tout le monde. Mais trouver quelqu'un qui était bouleversé, comme je dis, c'est autre chose. Il faut trouver des gens qui puissent parler, qui veuillent parler. Et construire, agencer le livre de telle sorte que le lecteur, quand il l'ouvrira, ne prennent pas peur qu'ils ne le referment pas, mais qu'ils se mettent à le lire.
То вот к людям, чьи большие рассказы, я встречаюсь, ну, 5-7 раз, ну, очень много раз. То есть даже с человеком, может быть, даже надо подружиться, чтобы...
Dans mon livre, il y a des chœurs, des passages courts et de longs récits. Ceux qui ont donné les grands récits, je les rencontre 5-6 fois, de nombreuses fois. Parfois même, il faut devenir l'ami de quelqu'un pour qu'il parle de façon aussi sincère. Parce qu'il arrive que ces gens racontent des secrets de leur vie. Et il faut prendre beaucoup de précautions, c'est très délicat.
La grande écrivaine Svetlana Alexievitch en 2014 au micro de Laure Adler pour France Culture dans l'émission Hors Champ, désormais prix Nobel de littérature, qui parle de la technique d'entretien. Elle termine même dans cette archive en disant la nécessité, la possibilité de devenir amie pour recueillir une certaine parole, parole qu'elle transforme ensuite en littérature. Leïla Guerriero, vous nous donnez à lire le processus des entretiens, la manière dont ça s'est tissé cette relation avec Sylvia Labayrou, pour peut-être faire naître cette parole, faire naître ce récit d'abord impossible ou alors pris dans une parole trop répétitive, trop juridique, rejoignant des témoignages que vous appelez presque la mémoire fautive. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ce travail très particulier qu'elle écoute, elle entretient pour l'écriture de ce livre ?
Si, por supuesto.
Oui, bien sûr. J'admire beaucoup le travail de Svetlana Alexievitch. Ça me paraît être des livres déchirants, en fait, hein, et sur la misère humaine, la bestialité. Mais par rapport à ce qu'on vient d'écouter, quand elle parle de la nécessité d'être amie, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Il suffit que l'autre ait confiance, hein, avec Sylvia et avec beaucoup d'autres personnes que j'ai interrogées. Pour moi, ça a toujours été clair et j'ai essayé d'être très claire sur le fait que nous n'étions pas amis. car quand on mêle à tout ce travail d'interview l'amitié, ça complique les choses. L'amitié, c'est quelque chose d'inconditionnel. C'est quelqu'un qu'on peut appeler lors d'une nuit d'insomnie pour dire pourquoi vous ne pouvez pas dormir. Et un journaliste, quelqu'un qui fait des entretiens, ce n'est pas ça. J'essaie de démontrer que je suis à 80% intéressée par la vie de la personne, que j'ai beaucoup de temps, beaucoup de patience, que je ne suis pas pressée, que mon écoute est tout à fait sans préjugés, que je peux tout à fait attendre avant de poser des questions difficiles et inconfortables. J'essaie de démontrer que je ne juge pas, je ne vais pas dire si quelqu'un est bon, méchant, talentueux ou pas. Donc, avec tout ça, je crois que mêler à ça l'amitié, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas une option. Et je crois que pour l'autre, c'est aussi quelque chose qui rassure, savoir que je suis là, moi, dans une position très professionnelle, avec tout le respect, toute l'écoute attentive nécessaire à toutes, à tous les mots que l'on me dit, mais sans être l'ami, la personne qui console. Voilà, c'est pas quelqu'un qui voilà, je laisse les gens pleurer, mais je ne vais pas nécessairement les consoler immédiatement.
Et en même temps, vous vous demandez en effet parfois, après certaines conversations, Leïla Guerriero, où vous avez cheminé avec Sylvia Laibeirou jusqu'aux heures les plus sombres de sa vie, les plus difficiles, où elle a subi des viols, où elle a subi la terreur, où elle a subi l'enfermement, où elle a subi l'arrachement de son nouveau-né. Vous vous demandez qu'est-ce qui va retomber de ces conversations-là, comme la poussière après qu'on a secoué un drap et vous la laissez chez elle. Et vous avez voilà, comme un souci éthique aussi de la manière dont vous demandez ou proposez à cette femme de raconter sa vie. Il y a quelque chose qui apparaît dans l'appel « Histoire d'une femme argentine », c'est que ce n'est pas que la voix de Sylvia Laibeirou, c'est aussi les personnes qu'elle a rencontrées, des amis, des amours. Et vous faites une place assez singulière aux histoires d'amour qu'a eu cette femme avant sa détention et puis après sa détention, comme si c'était un des chemins de sa vie que vous teniez à raconter, mais aussi la naissance de sa vie amoureuse, de sa vie sexuelle dans l'adolescence, bien avant qu'elle devienne militante incarcérée par la dictature qui l'a torturée, comme si vous vouliez vraiment raconter aussi la vie de cette femme, certes percutée par l'horreur, mais qui a continué à être amoureuse, qui a continué à avoir du désir. Le livre se termine sur la femme qu'elle veut être à 65 ans passés et la place qu'elle veut faire au sexe dans sa vie. Comment est-ce que vous avez vu naître cette ligne de narration ?
Bueno, creo que no fue difícil porque lo que yo veía.
Je crois que ça n'a pas été difficile parce que moi, je voyais Sylvia aujourd'hui. Et c'était une femme pleine de vie, avec une sexualité active, me racontant des choses sans trop de détails, mais je me rendais bien compte que sa vie sexuelle était très importante. C'était une femme qui savait profiter de la vie avec beaucoup d'amis, quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui aimait énormément ses deux enfants, Vera et David. Je ne voyais pas une femme brisée, quelqu'un qui souffrait en permanence. J'étais sûre, bien sûr, qu'il y avait de la souffrance chez elle, qu'il y avait des traces, bien sûr, de tout ce qui lui était arrivé, et je le savais. Mais elle était vivante. vivante et elle vit encore une grande histoire d'amour hein, qui s'était interrompue avec la dictature, mais ils se sont retrouvés pour vivre cette histoire d'amour et ils étaient toujours ensemble. Mais pendant ces 3-4 années les plus horribles de sa vie, ça aurait été très injuste si je n'avais raconté que ça. Ça aurait presque été une histoire fausse, parce que c'est ce passé-là qui a fait naître ce qui est le présent qu'elle a quand je la rencontre et que je l'interroge. Il ne s'agissait pas quelqu'un de paralysé par son passé. Et donc, je dirais que l'axe, la ligne du livre s'est imposée comme ça se passe toujours quand on travaille avec la non-fiction. Quand on veut vraiment faire un portrait et pas une caricature, c'est ce qu'il faut faire, comprendre quel est le passé qui a produit le présent dont on témoigne, hein, avec toutes les contradictions qu'il pouvait y avoir chez Sylvia, puisque bien sûr c'est une femme complexe, ambiguë, contradictoire, pleine de préjugés. Mais elle a aussi plein de qualités, hein, une grande curiosité. Et donc, un portrait, c'est vraiment rendre compte de tout ça. Ce n'est pas décider, doter ce qui vous met mal à l'aise hein, pour que le portrait soit mieux accepté.
Lorsque vous entrez dans ce que vous appelez en effet ces années noires, ces années d'horreur et notamment les années de détention, Leïla Guerriero, il y a un sujet qui vous concentre l'une et l'autre, mais aussi la justice et la manière dont ça peut être traité en justice. C'est l'usage du viol et des violences sexuelles qui sont faites dans la torture et plus généralement, on le sent aussi, qui vous permet de penser la manière dont la violence sexuelle faite au corps des femmes est utilisée dans les systèmes totalitaires, dans tous les systèmes où la violence règne. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre texte où ces choses-là se pensent.
À partir du moment où on est séquestré, rien de ce que l'on fait ne peut être considéré comme le produit de notre propre volonté. Mais que, dans des circonstances déterminées, tu aies même pu éprouver du plaisir sexuel dans cette situation, qui était un viol, c'est parfaitement compréhensible. Au beau milieu de cette nuit obscure, où tu es seul comme un chien, qu'un type, même si c'est un répresseur, te fasse une caresse et te traite humainement, eh bien ma fille, ça n'en reste pas moins un viol, mais au moins pendant cet instant infime, tu t'évades. Un peu de plaisir, une décharge. Mais tout cela est plus ou moins tabou. C'est comme la question du consentement. Dans le camp, le consentement n'existe pas. Pas même si tu as baisé avec ce type mieux qu'avec personne d'autre dans ta vie. Ça reste un viol. Tout ce qui se passe est conditionné par une situation de menace terrible. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Te découper en petits morceaux. Séquestrer ton enfant, ta mère, ta tante. C'était un viol, même s'il y a eu du plaisir ? Bien sûr que oui. Je crois qu'il y a un fond affreusement machiste et un flou subsiste quant au fait que nous, les femmes, ne provoquons pas les viols. La justice est troglodyte et la personne violée est une provocatrice, une traînée.
Il s'agit de la manière dont est traité le témoignage de Sylvia Labayrou, dont je rappelle arrêtée, détenue, violée, torturée après le coup d'État de 1976 en Argentine, qu'il s'agisse de cette parole aux yeux de la justice, mais aussi aux yeux de ses amis, aux yeux des personnes qu'elle va retrouver après sa libération, le fait qu'elle soit une femme, le fait qu'elle ait été cette jeune militante, le fait qu'elle ait été belle, comme vous dites, rousse, blonde, aux yeux clairs, Leila Guerriero, le fait qu'elle ait subi des viols répétés et une violence précisément sexuelle sur ce corps-là, joue dans l'ambivalence qu'elle-même a sur la violence qu'elle a subie. Et il me semble que un des autres axes que vous essayez de travailler dans ce livre-là, Leila Guerriero, c'est l'ambivalence qui n'en est pas une, puisque là on l'entend dans ces lignes, c'est très clair, ce sont des viols. Mais tout de même, il me semble que vous allez dans ces endroits-là.
Bueno. No sé si ambivalencia. Creo que Silvia tiene una postura muy clara.
Je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'ambivalence. Je crois que par rapport au viol, Silvia a une position très claire.
Bien entendre.
Est-ce que je suis d'accord avec l'extrait et qu'on vient d'entendre? Je dirais que je suis d'accord dans un centre de détention clandestin. Il n'y a pas de consentement possible, hein, même s'il y a eu du plaisir ou même une toute petite manifestation de vie normale. Il faut penser à cette femme de 20 ans, jeune, avec toutes ses attentes, toutes ses pensées sur l'avenir. Hein. Il faut penser qu'elle peut se retrouver à un moment en se disant que plus jamais elle ne sortira de ce trou noir. Je crois que elle est très claire, hein, par rapport à ce qu'est le viol. Elle dit que effectivement, il n'y a pas de consentement possible parce qu'il y a menace qui est aussi exercée sur la famille. Et elle dit, voilà, et s'il y a eu du plaisir, elle s'interroge. Elle ne dit pas, j'ai ressenti du plaisir ou ça m'a plu. Elle pose la question de, et s'il y avait eu plaisir, elle dit, même comme ça, il s'agirait d'un viol. Hein. Donc, le jugement a été rendu en 2021. Je crois que 10 années auparavant, Silvia n'aurait pas été capable de dénoncer ces viols. Elle n'aurait pas été capable d'aller jusqu'au procès. Hein, parce que je crois que, plus que tout, il y avait une pression sociale sur ces questions-là. Hein. Et d'une certaine manière, ça aurait été jugé très différemment. On aurait dit elle ne s'est pas plainte suffisamment, ou alors elle avait une jupe trop courte et donc elle l'a cherchée, des choses comme ça. Hein. Donc c'est une limite. Hein. Sylvia savait qu'il fallait faire très attention à ce qu'elle allait dire pendant le procès. Elle n'a évidemment pas dit en fait ce qu'on a entendu dans l'extrait qui vient d'être lu, hein, parce qu'elle savait que c'était très complexe. Moi, je me souviens très bien quand elle m'a dit ça. Et elle est toujours très contradictoire, Silvia, mais pas sur cette question-là, je crois.
On va écouter Paul, auditeur du Book Club. Il a lu votre livre, Leila Guerriero, et il y a vu un portrait plus large que celui de Silvia.
Bonjour le Book Club, bonjour Leila Guerriero. J'ai lu votre livre. Ce qui m'a impressionné, c'est à quel point il est riche de plusieurs regards, et que c'est de l'ensemble de ces regards que naît le portrait de Silvia Labero. Est-ce que vous aviez déjà l'intuition que c'était aussi le portrait d'une époque qui allait se dessiner? Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Paul, pour cette lecture et pour cette question. Leila Guerriero, en effet, il y a d'autres choses qui naissent peut-être en guise de portrait, pas seulement celui de Silvia Labero. Paul y voit le portrait d'une époque, peut-être de plusieurs époques, non?
Oui.
Creo que sí, que es el retrato de varias.
Oui, je crois en effet que c'est le portrait de plusieurs époques.
Et deja muy a la vista por un lado, una
c'est quelque chose qui laisse voir l'incroyable conviction des gens qui militaient dans ces groupes politiques des années 70 et qui croyaient vraiment qu'on pouvait changer le monde. C'est très difficile aujourd'hui, hein, si on parle avec quelqu'un entre 14 et 17 ans, qui était l'âge en fait hein, qu'avaient les camarades de Sylvia, qui ont une conviction comme celle-ci, hein, avec bien sûr des erreurs, c'est-à-dire dire mais bon, on va changer le monde. Je sais pas en fait où sont les gens capables de dire ça aujourd'hui, peut-être ils sont sur TikTok. Et je crois aussi que le livre parle aussi en fait du passage du temps pour cette génération et comment certains d'entre eux revendiquent cette lutte alors que d'autres regrettent ces luttes alors que d'autres pensent qu'ils auraient dû lutter différemment. D'autres encore croient qu'il s'agissait d'une lutte inutile. Et donc, je crois que c'est un livre. Il parle d'une génération en particulier qui a traversé une bonne partie du XXe siècle et du XXIe siècle et qui s'est adaptée, qui a changé de pays. Celui qui était guerriero est devenu médecin. Celui qui faisait du renseignement pendant la dictature est devenu un expert en marketing. Je crois aussi que c'est un livre qui parle de l'illusion et de la désillusion. C'est-à-dire aussi d'une certaine manière comment on est trompé, on se trompe.
Oui, parce que finalement, le livre fait une boucle entre une sorte de réunion comme ça sur une terrasse où les souvenirs affleurent de l'époque d'il y a plus de 40 ans et à la fin, on y revient et on sent bien que ces personnes-là se regardent avec beaucoup de lucidité, Leila Guerriero, que vous êtes un regard par-dessus, le regard qu'ils se portent à eux-mêmes, comme si c'était aussi ça qui vous avait intéressé. Qu'est-ce qui demeure de cette jeunesse brûlante et pour une part brûlée, quoi, brûlée à vif.
Creo que es muy muy conmovedor.
Oui, je crois que c'est très émouvant. Ma dernière interview avec Sylvia, c'était novembre 2022 et la dernière fois que je l'ai vue, c'était lors de ce dîner. Et lorsque je suis rentrée chez moi, je réfléchissais en fait hein, à la figure de cette femme qui avait disparu dans la nuit quelques jours après la mort de son chien. Hein, je me souvenais de ce dîner sur la terrasse avec ses amis à elle, qui l'avait fidèlement accompagnée tout au long de 40 ans. Et j'ai compris que dans cet accompagnement, ce qui les avait réunis, c'était des idées politiques quand ils étaient à l'école et puis ensuite dans des groupes politiques. Mais ils continuaient quelque part avec des disputes, avec des brouilles de plusieurs mois, comme dans les adolescents. Et puis, le jour d'après, en faisant la vaisselle chez moi,
parce que c'est un moment, c'est un grand moment d'inspiration de faire la vaisselle pour moi.
Et vraiment, je me bats beaucoup pour que personne que j'ai invité à manger ne fasse la vaisselle hein, après le repas chez moi. C'est à moi. Et donc, je faisais ça. Hein. Je faisais cette tâche sublime. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une révélation sur comment j'allais commencer et terminer le livre. C'est la première fois que ça me passait. Hein. C'est-à-dire, je sais souvent comment ça commence, mais je ne sais jamais comment ça se termine. J'ai eu la vue de cette terrasse, de cette célébration, des années bien plus tard, avec certains amis malades, d'autres ayant disparu, et je me suis souvenue de cette chanson en latin qu'ils ont chantée ensemble alors qu'ils l'avaient apprise ensemble à l'école, et ça m'a paru un symbole de ce que je voyais au présent, c'est-à-dire une femme totalement vivante et qui se battait contre les mauvais souvenirs comme la perte, comme la contre la mort, et elle est apparue très forte, en fait. D'une certaine manière, cette scène de la terrasse est quelque chose qui enveloppe le film. C'est quelque chose qui est pas si obscur, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, le plus facile aurait été de démarrer par un moment plus obscur de la vie de Sylvia, cette femme enfermée dans l'obscurité pendant plus de 5 mois, jeune, dans ses derniers mois de grossesse. Mais ce n'était pas quelque part ce qui était le plus important dans la vie de Sylvia. Ce n'était pas ce souvenir-là. C'était seulement un milieu de toute une vie. C'est un livre sur ce que la vie t'offre.
Le book club continue. Avec à cette heure-ci l'agenda du Book Club, on se fait le relais d'événements qui sont en lien avec les livres, la lecture, l'écriture. On voulait vous parler de plusieurs événements à venir à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine situé dans l'abbaye d'Ardennes, près de Caen, dans le Calvados. Plusieurs rendez-vous que vous pouvez retrouver sur le site de l'IMEC. Par exemple, le 11 décembre prochain à 20h, dans le cadre d'un cycle qui s'appelle « Elles font l'histoire », grand entretien avec Lola Lafont, sous-titré « L'histoire qui nous traverse ». De la petite communiste qui ne souriait jamais, qui est un titre de son livre, à Quand tu écouteras cette chanson, récit d'une nuit passée dans l'appartement d'Anne Frank, Lola Lafont traversera donc la grande histoire sur sa marge et sa bordure intime à partir d'événements minuscules et de vies invisibles. Vous pouvez vous rendre à cette conversation librement, gratuitement, mais il faut réserver réservation@imec-archive.com.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et vous parliez de la lumière paradoxale dans laquelle s'ouvre et se ferme votre livre Leïla Guerriero et l'évocation de la vie de Sylvia Labayrou. Eh bien, nous cherchons la musique comme la lumière dans les textes. Et nous quittons sur un extrait de votre texte, L'Appel, traduit de l'espagnol par Mayra Mouchnik, et l'évocation d'un poème que Sylvia recopie pendant sa détention à l'ESMA, qui est un poème de Vinicius de Moraes. En arrivant chez moi, je regarde le cahier de poèmes à spirale de la marque Monitor. Il porte en couverture l'image d'un bateau aux voiles déployées. C'est une image imprimée, donc aucune métaphore, ils ont dû lui donner ce qu'ils avaient. La sélection est éclectique. Le premier poème, recopié d'une écriture ronde et lisible, est L'amour de Pablo Neruda. Nul ne sait mieux que les deux solitaires, les destinées, les pénultièmes, ceux qui se sont trouvés, sans autre ressemblance que la leur, nul ne peut penser, loin des origines, qu'une femme et un homme reconstruiront la terre. Le deuxième poème est Sonnet de fidélité. Il n'est pas signé, mais il est de Vinicius de Moraes. Sur tout, à mon amour, je serai attentif, avant, et avec un tel zèle, et toujours, et tellement.
Eu sei que vou te amar por toda minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada vez. Será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida.
G.
amor seria atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto.
Merci beaucoup Leila Guerriero d'avoir été avec nous pour parler de L'Appel, histoire d'une femme argentine, parue dans la traduction française par Mayra Mouchnik aux éditions Rivage. Merci Pascal Fougère d'avoir interprété les paroles de Leila Guerriero en direct. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, particulièrement aujourd'hui à Mathilde Wagman pour poursuivre la conversation autour de ce livre et des autres. Rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club de France Culture, où la conversation est cette fois animé par Alexandre Alaï-Begovitch.